بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية شافعون إسلام nous remercions الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour étudier quelques versets de la sourate Al-Haqqa. On rappelle le découpage de la sourate Al-Haqqa. Allah Azza wa Jal annonce cet événement qui est l'inévitable, cet événement qui montre la vérité. Et le verset que nous venons de lire, c'est le verset par excellence qui prouve qu'en ce jour, personne ne pourra cacher ses manquements, ses défauts, la réalité de sa foi, la réalité de sa vie, de son parcours. Personne ne cachera quoi que ce soit devant Allah Azza wa Jal. Même si dans ce monde on cachait nos défauts, même si dans ce monde on avait une apparence, mais qui cachait les manquements et les péchés intérieurs, et qu'on arrivait peut-être à tromper des gens, et qu'on avait un point commun ou quelques points communs avec les munafiqin, les hypocrites, qu'Allah nous protège, quelle que soit notre situation, quel que soit notre degré de foi, notre degré même d'éloignement, nasallallahu alayhi wa sallam, la quantité de péché, la quantité de points noirs qui étaient sur nos cœurs, le jour de Qiyama, rien ne peut être caché et tout sera visible, tout sera dévoilé. Donc, la sourate commence par l'annonce de cet événement. Ensuite, il y a l'histoire des peuples précédents. Les peuples de Thamoud, le peuple de Ad, le peuple de Pharaon, le peuple de Nuh, et enfin le peuple de Lut, alayhi salam. Ça fait à peu près 5 histoires des prophètes qui ont été citées. L'histoire de 5 peuples qui ont désobéi à leurs prophètes. Et ils avaient comme point commun le fait qu'ils ne croyaient pas en l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal explique dans le premier tiers de la sourate Al-Haqqa comment fut leur destruction et après destruction, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِمْ بَاقِيَةً. En vois-tu le moindre vestige des peuples, des qaums qui ont atteint le summum, l'apogée dans la richesse, dans les constructions. On pense au peuple de Ad, on pense au peuple de Thamoud, dont les vestiges sont toujours visibles. On pense à Pharaon avec son pouvoir, avec son armée, avec les terres sur lesquelles il régnait, avec son esclavage, le plus grand esclavage de l'histoire de l'humanité. C'était celui de Pharaon, sur les Banu Israël, sur les fils d'Israël. Et ces personnes qui ont été riches, qui étaient respectées, qui avaient le pouvoir, et ainsi de suite, lorsqu'Allah Azza wa Jal a décidé de les retirer de ce dunya, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةً, que ce soit une leçon pour ceux qui viennent après eux, c'est-à-dire pour nous, pour cette umma, que personne n'atteindra dans cette communauté un tel niveau de puissance, de pouvoir, et ainsi de suite. Mais le fait qu'ils aient désobéi à Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah les a détruits, il n'y a plus aucune trace de ces personnes. Ensuite, il y a, ce sont les versets de la dernière fois, oui, à partir du 13, 14, 15, 16, jusqu'au 19, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا. On avait expliqué cet ange qui souffle dans Fissour, dans la corne, pour la destruction de ce dunya. Ensuite, une seconde fois pour le retour à la vie, par le même moyen, Allah détruit. Par ce même moyen, Allah redonne vie. Et quand Allah redonne vie, c'est d'une façon que l'être humain ne peut imaginer. À partir des os, à partir du reste du squelette humain, Allah Rabbul Izzah redonne la forme aux os, à la peau, à la chair, aux cheveux. Le corps redevient corps d'être humain et le ruh qui ne disparaît jamais. Le ruh réintègre le corps et il se réveille pour al-arzu, pour le moment où il se présente devant Allah, un événement que nous allons tous vivre un jour, qu'Allah facilite cette étape. Et dans ces versets, on a à peu près 5 ou 6 versets où il y a tout d'abord la description du qiyama et de la mise en place du tribunal d'Allah Azza wa Jal, description de la terre et des montagnes qui sont réduites en poussière, en poudre, on pourrait dire dakkatan wahida, qui sont réduits, qui sont anéantis pour avoir un espace suffisamment étalé, large, pour accueillir Ardul Mahshar, pour accueillir l'ensemble des créatures d'Allah Azza wa Jal. Et description également du ciel qui va se fendre, qui va se casser, et description des anges qui s'apprêtent à assister au jugement, les anges qui se tiennent autour et qui observent ces êtres humains qui sont là, qui sont apeurés, qui sont angoissés, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Et dans ces moments d'angoisse, ceux qui étaient dans le droit chemin de ce dunya, ils sont toujours rassurés. Ils ont auprès d'eux des malaïkas qui leur apportent la bonne nouvelle. Lorsque le Jahannam est présenté à la terre du Mahshar, les malaïkas rassurent les serviteurs d'Allah que ça, c'est pour ceux qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal. Tout ça sont des explications qu'on retrouve dans Riyadus Salihin, dans le verset « Tatanazzalu alayhimul malaïkatu alla takhafu wa la tahzanu » et ce hadith, on pourrait dire complète, ces versets nous donnent une description des ahlul iman, des ahlul taqwa, dans les moments les plus angoissants, les pires des moments, quitter ce dunya et voir l'au-delà. Il n'y a pas de moment plus effrayant que de quitter ce monde, passer de cette vie à la mort et passer de l'état de néant, de la mort à la résurrection, retrouver vie et voir ce qu'aucun cœur ne pouvait imaginer. Dans ces moments critiques, les anges sont là. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés, ne soyez pas attristés. Ça, c'est le masir, la destinée qu'Allah a réservée à ceux qui ont dit Rabbuna Allahu thumma istaqamu, qui ont développé iman billah de leur cœur, qui ont accompli bien sûr les bonnes actions, thumma istaqamu, ihdina as-sirat al-mustaqim, que nous demandons dans chaque Fatiha, ya Rabb, guide-nous vers le droit chemin. C'est-à-dire que je reste mu'min, que je reste croyant, que ma foi augmente, que ma soumission à toi devienne totale, et que jour après jour je me rapproche de toi, ihdina as-sirat al-mustaqim, avec istiqama, avec fermeté, avec constance, avec intelligence, avec basira, avec clairvoyance, jusqu'au dernier instant. Jusqu'à ce que l'ange de la mort reprenne mon âme, qu'il reprenne mon âme alors que je suis dans ton ibadah, dans ton obéissance. C'est ce qu'on appelle husnul khatima. C'est ce que nous tous souhaitons vivre. Vous avez vu la vidéo de ce cheikh qui est décédé à Mecca? Vous l'avez vu? Cheikh qui faisait dars, il se retourne auprès de ses étudiants. Subhanallah. L'ange de la mort était là. Ça c'est alama husnul khatima. Qu'Allah nous accorde une mort pas glorieuse aux yeux des gens. On n'a pas besoin que des gens soient là pour nous filmer. Il aurait été mieux que personne ne puisse voir ça, que ce soit entre lui et Allah. Bas. Mais bon, on vient à une époque où les gens aiment les photos et les captures d'écran. Mais qu'Allah nous accorde cette mort glorieuse auprès de notre Seigneur. Pas glorieuse auprès des gens. Pas mourir riche, mourir célèbre, mourir au summum de sa gloire. Ça n'apporte rien. Parce que ta richesse, ta gloire, ton pouvoir, tu le laisses. Lorsque le corps, c'est des hadiths qu'on répète tout le temps, mais c'est des hadiths de base, des hadiths de tazkiyah, des hadiths de purification intérieure, des hadiths qui nous remettent en question, qui nous permettent de nous remettre en question. Parce que nous vivons dans un dunya, dans un monde où il y a un système de consommation, de surconsommation, de concurrence, de se dépasser mutuellement dans les biens, pour montrer aux autres ce que nous avons eu, que nous sommes en train de réussir, que l'être humain ne se remet plus jamais en question. On oublie que nous sommes là pour un moment et que inna sa'yakum la shatta. N'oubliez pas que ce passage de ce dunya, c'est un sa'i. Ce n'est qu'un passage. Et que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a demandé kun fi dunya ka annaka gharib ou abir sabil, soit ou alors vie de ce dunya, de ce monde, comme si tu étais un étranger. L'étranger, nos frères de l'île Maurice sont là. et on les souhaite la bienvenue et qu'Allah leur accorde la baraka de leur projet de construction de la masjid dans leur village, dans, je dis pas village, hein, ville, c'est une ville, village, dans le village de Flak. Qu'Allah leur accorde la bénédiction, la réussite. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Khalas, nos frères sont là de passage. Ils viennent là pour 2 jours, 3 jours. Quand ils viennent, où est-ce qu'ils dorment? Dans un hôtel. Est-ce que quand ils viennent ici un instant, est-ce qu'ils vont aller courir à Carrefour acheter 300 euros de provisions? Est-ce qu'ils vont aller acheter 20 kilos de riz chez Chat Noir? Est-ce qu'ils vont acheter tout ça? Là! Il est là pour, subhanallah, 3 jours. Yani, zad un basit, quelque chose, strict nécessaire. Est-ce que là, il dit, bon, bah, Yann Noir, là, 3 jours, besoin d'amener l'architecte, là, besoin de monter un bâtiment. Ça, bâtiment, là, besoin de faire 10 étages, besoin de mettre un ascenseur, et qu'un parking, ça pour rentrer sous-sol, là, mon loto pour arriver, monter l'ascenseur, direct dans la piscine, sur la terrasse. En 3 jours, capable de faire tout ça, ou bien c'est insensé. Le plan n'est pas prêt, ton cafin est là. Non, pardon, le plan n'est pas prêt, ton boarding pass est déjà dans ta main pour remonter de l'avion. C'est aussi insensé que la personne qui prévoit, qui pense, qui voit loin, dans le cyclone de ce dunya, dans le tourbillon de ce dunya, on appelle ces gens des visionnaires. Visionnaire, lui, c'est quelqu'un qui voit loin. Quand il a un projet, c'est pour 50 années à venir. Il sera 50 pieds sous terre, mais son projet, il va continuer. Allah musta'an. Il s'est oublié lui-même. Il dit que oui, mais ce projet-là, ça va servir à plusieurs générations, sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Tout ce qui peut être profitable, alhamdulillah. Mais ne t'oublie pas. Le plus important, c'est qu'ou, annas, qu'ou, qawmaka, qu'ou anfusakum. C'est pas sauve les gens. C'est pas sauve ton peuple. Ou anfusakum, premier. Ensuite, ou ahlikum, fakra, jawa, c'est quoi? Protégez-vous et protégez vos proches contre quoi? Contre la faim? Non, c'est Allah qui, nahnu narzuqukum iyyahum. C'est Allah qui donne la subsistance. Protégez-les de la peur. C'est Allah qui donne la protection. Alladhi at'amahum min jou' wa amanahum min khawf. Ou anfusakum wa ahlikum, nara. Une seule chose. Il y a une seule chose qui fait peur. Il y a une seule chose qui est terrible. Et Allah Rabbul Izzah dit, attention, protégez-vous, protégez vos proches contre ça. Parce que ça, c'est, Allah dit, c'est lui qui a créé ça. Et ça, c'est terrible. La faim, c'est pas terrible, ça. La peur, c'est pas terrible, ça. La mort, c'est pas terrible, ça. La maladie, c'est pas terrible, c'est pas difficile. Parce que tout ça, c'est Allah qui donne. Et c'est Allah qui reprend. Ça, ça, c'est terrible. Parce que c'est Allah qui te dit, qu'ou anfusakum ahlikum nar. Donc, de ce dunya, quand quelqu'un, il est dans les affaires ou dans l'investissement, dans l'immobilier, ainsi de suite. Un jour, il est ici, un jour, il est Paris, après, il est Tokyo, il est Washington, il est là, il dit, ça, c'est un businessman, ça, c'est un visionnaire. Oui, et il construit des pierres, il monte des pierres, il monte des entreprises, oui, bien sûr, il fait plein de choses, mais il s'oublie. Alors que le premier objectif, c'est protège-toi du feu de l'enfer, du feu de l'enfer. Trace ton chemin, et dit dans Sirat al-Mustaqim, construis, mets les assas, mets les rails, pour que ton Sirat soit vraiment Mustaqim, hatta yatiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que tu trouves la mort. Donc, ikhwan fillah, on revient, on est parti un peu loin. Donc, kun fi dunya ka annaka gharib, comme un étranger, quelqu'un de passage, ou abir sabil, quand quelqu'un traverse la route, quelqu'un a besoin de traverser, c'est quelques instants, il regarde s'il n'y a pas de danger, ce qui est nécessaire pour arriver jusqu'à la babas. Il n'a pas de projet. Mais hakada, c'est de cette façon que nous devons comprendre ce dunya. Mais si nous suivons le discours ambiant ou le discours ostentatoire de notre société de consommation et de surconsommation, ben jamais nous aurons cette compréhension saine de la vie de ce dunya. On ne trouvera jamais dans une pub ou dans un, je ne sais pas moi, ce ne sera jamais le message d'une série télévisée ou d'un film ou autre chose qu'il faut vivre dans la simplicité. Il ne faut pas dépenser plus que ce que nous gagnons. Il faut manger avec modération. Il faut, et ainsi de suite, jamais c'est le contraire. L'être humain fuit la pauvreté. Tous les discours vont dans le même sens. Et vous trouverez le même discours ici à La Réunion, pays, entre guillemets, développé. Enfin, c'est les Français qui ont développé. Autrement, on serait là à manger nos cannes à sucre. Hein? Mais le bourbonnais. Le Mauricien appelle nous bourbonnais, vous connaissez ça? En règle, vous êtes compte, non? Mais on trouve le même discours dans les pays riches. On trouve le même discours dans les pays pauvres. Même dans les pays pauvres. On encourage les gens à consommer. Ils ont presque rien, mais la consommation. Et celui qui a une belle voiture, celui qui a une belle maison, même s'il s'endette jusqu'à, je sais pas combien d'années, mais le plus important, c'est de montrer, paraître. Paraître. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui dort sur des nappes tressées, avec des feuilles de date, quand il s'assoit, il y a des traces, il dit, Umar ibn al-Khattab, ce dunya-là, ça c'est pour eux, ça. Pour nous, Allah ne nous donne rien ici, mais nous donne tout là-haut. C'est pas ça que nous souhaitons. Le prophète fait dars, il enseigne Umar ibn al-Khattab, c'est quoi la réalité de la vie? Ce que tu vois sur mon dos là, ça ne doit pas t'affecter, parce que tes yeux l'ont vu, parce que tes oreilles entendent, ils voient, et ton cœur sent le discours ambiant. Ne t'arrête pas sur tes cinq sens. Regarde, c'est ton iman qui doit comprendre la vie, pas tes cinq sens. Et comprends que là-haut, voilà, akhiratu khayrun laka minal, wadduha, wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala, wala al-akhiratu khayrun laka minal ula. Et il en est de même pour nous tous. Donc, on revient. On s'éloigne. On revient. Donc, ces anges, dans d'autres versets, pas eu le temps de chercher ces versets. Si quelqu'un l'a, les versets, on montre comment les anges s'installent. Et dans les hadiths qui décrivent comment les anges, ils font des cercles autour d'eux, des hommes qui sont ressuscités. Et on s'était séparés avec le verset, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Les huit anges qui vont porter le trône d'Allah, Azza wa Jal, et on avait expliqué, la compréhension humaine n'est pas adaptée pour comprendre les textes qui décrivent les scènes de l'au-delà, et on avait pris pas mal de temps, 10 ou 15 minutes, pour expliquer ce qu'on appelle les termes, mushtarak, les termes communs. Quand Allah Rabbul Izzah révèle quelque chose qui décrit l'au-delà, c'est l'av mushtarak, des mots que l'homme peut comprendre, mais nous avons iman, kama, yaliqu bihi azza wa jal, comme cela sied, comme cela appartient à Allah azza wa jal, laysa kamithlihi shay, rien ne ressemble à Allah azza wa jal. Allah nous donne des indices pour comprendre, pour qu'on ait une idée de la grandeur et de la puissance, comment c'est magnifique, mais ne pense pas que avec ta compréhension humaine, tu auras une compréhension totale. Ça c'est tout à fait impossible. Tout comme, on avait donné les exemples des fleuves du paradis, quand on parle d'un fleuve de miel, Allah te dit deux termes, fleuve et miel. Mais est-ce qu'un être humain peut imaginer ça? C'est pas possible d'imaginer. C'est-à-dire que Allah te donne une description pour que tu aies une idée de caractère, de la description du Jannah, comment c'est magnifique, mais n'essaie pas de comprendre et n'essaie pas d'analyser. N'essaie pas d'utiliser ta qiyas, l'esprit d'analogie ou de réflexion pour dire que non, tu ne peux pas avoir un fleuve de miel parce que le miel, à un certain moment, le sucre se cristallise. Du coup, ça ne peut pas continuer à couler. Il aurait fallu telle chose. Ne va pas de ce genre de réflexion. Allah t'a dit, fleuve de miel, dit « Amanna billah, amanna wa saddaqna » et nous verrons, Inch'Allah. Y croire et avoir espoir de le voir un jour, même si tu ne le comprends pas. C'est ça, iman. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Première qualité qui est citée dans la sourate Al-Baqarah. Ne pense pas que tu vas tout comprendre avec ton intelligence, avec ton bac plus 7, avec ton doctorat, et ainsi de suite. Tu n'es pas là pour tout comprendre. Parce que tu ne comprends même pas ce qui se passe en toi. Wa fi anfusikum. Quand Allah parle des signes, et Allah Rabbul Izzah a dit, wa fi anfusikum. En nous-mêmes, il y a des signes. Nous-mêmes, on ne comprend pas comment nous fonctionnons. Si on devait prendre une goutte de sang et faire une analyse, on ne peut pas imaginer le nombre de milliards et milliards de choses qu'il y a dans une goutte, entre les globules rouges, entre les globules blancs, entre le fer, entre le potassium, entre le cuivre, entre, je ne sais pas, il y a plein de choses encore. Le zinc, et voilà. Et ainsi de suite. Est-ce que vous le saviez? Vous saviez que vous avez tout ça dans votre corps? Personne ne sait. Mais Allah Rabbul Izzah vous montre qu'il y a des signes en vous. Mais on n'arrive pas à comprendre notre propre corps. Comment on va essayer de comprendre? Comment est Allah et ainsi de suite? Donc, ça c'est un point dans lequel, malheureusement, beaucoup de gens se sont égarés en essayant de ramener vers une compréhension, vers un esprit cohérent. Et puis, il y a l'école des Mu'tazila et ainsi de suite. Bon, on va pas entrer dans les détails de l'histoire des sectes, quand on parle des Mu'tazila, c'est très grave. Ça a tendance à renier tout ce qui est en rapport avec l'invisible, tout ce qui est en rapport avec ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas accessible, donner un commentaire rationnel, ainsi de suite. Bref, donc, quand on dit que les huit anges portent le trône d'Allah, jour de Qiyamah, c'est comme Allah l'a décidé. Allah nous l'annonce, Et nous devons y croire, même si nous n'arrivons pas à comprendre, sans oublier qu'Allah n'a besoin de personne. Allah n'a pas besoin de ses 8 anges, lui ou non. Allah n'a pas besoin de 10 000 ou 100 000 anges ou 8 anges pour porter son arche, mais Allah a décidé que les choses se passent comme ça, de cette façon, le jour du Qiyamah. Et ça, on n'avait pas dit la dernière fois, dans un hadith, notre prophète, alayhi salat wa salam, dit que Allah m'a donné l'autorisation de vous décrire an uhaddithakum an malakin min hamalati al-arsh, de vous décrire un ange parmi les anges qui portent son trône, bu'da ma bayna shahmati udhunihi wa 'unuqihi, la distance qu'il y a entre l'oreille de cet ange. Alors on va dire quoi? Les anges ont des oreilles maintenant, ainsi de suite. Ça aussi, ce sont des termes pour qu'on comprenne. Le voisin veut nous donner une description de la partie supérieure d'un ange, sous son véritable aspect. Donc, le Prophète utilise des termes que l'être humain comprend. Quand on dit les oreilles, quand on dit le cou et tout, on voit à peu près de quoi il s'agit. Mais quand cela concerne des créatures de l'invisible, on ne peut pas concevoir. Donc, il dit entre l'oreille de cet ange et son cou, بعد ما بين شحمته أذنه, entre l'aube de l'oreille plutôt, وعنقه, et son cou, il y a une distance de 700 années. C'est, on parle de à vol d'oiseau, je cherche le terme. 700 années à vol d'oiseau, uniquement entre l'oreille et le cou de cet ange. Dans un hadith, et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, et son sanad est jayyid, c'est-à-dire c'est un sanad qui est bon, qui est acceptable. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une autre description. An malakin min malaikatillahi min hamalatil arshi. Un hadith qui va dans le même sens. Annama bayna shahmati udhunihi ila atiqi, là une description jusqu'à ses épaules, masirat 700 am, une distance de 700 années. Hadith rapporté par Abu Daoud, c'est pour qu'on ait une idée. Le but n'est pas de connaître la description des anges, parce que c'est un monde que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est un monde que l'homme verra uniquement le jour du Qiyam. Mais pour qu'on ait une idée de l'immensité de la création d'Allah Azza wa Jal. On a tous déjà vu ces schémas qui circulent parfois sur les réseaux sociaux, où on montre la Terre, et puis on montre les autres planètes du système solaire, et puis on montre les autres systèmes solaires, les autres lunes, les autres soleils, et ainsi de suite. Et on se rend compte que la Terre, c'est un petit point sur une feuille A4. Et la Terre, c'est rien. Maintenant, au-delà de la Terre, subhanallah, si on ramène à notre échelle, à nous, êtres humains, on se rend compte qu'on n'est rien de moins que rien. Et quand on parle du monde des anges, subhanallah, toutes ces planètes et qui peuvent être visible avec les satellites, avec tout ça, ça n'atteint même pas le premier ciel. Ça n'atteint même pas le premier ciel. N'essayons pas de comprendre l'immensité de cet autre monde. L'autre monde, c'est le monde du Raïb, c'est le monde de l'au-delà. Et les créatures d'Allah, ils sont exceptionnelles, ils sont immenses. Yawma idhin tu'araduna la takhfa minkum khafiya. Ce jour-là, vous serez exposé et rien de vous ne sera caché. Donc, en ce jour, tout ce qui est au plus profond de nous sera mis en avant et Allah est le seul juge en ce jour. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avec sa foi, avec son iman et sa sagesse, il nous a donné un conseil en or. Hasibu anfusakum qabla an. Faites votre compte vous-même avant qu'on ne fasse vos comptes. Jugez-vous, pesez-vous avant qu'on ne pèse vos actions. Faites le bilan de votre vie, de vos actions bonnes et mauvaises avant qu'on ne le fasse à votre place. C'est-à-dire que le croyant se doit de rester vigilant. On doit se réveiller. On ne doit pas se laisser endormir par le discours de ce dunya. On ne doit pas se laisser emporter par les plaisirs de ce monde. Mais le croyant intelligent, c'est celui qui en permanence se fait du souci pour son iman, pour l'état de sa foi. Et la pire des situations, c'est celui qui vit dans le rafla de l'insouciance. Et même parmi les pratiquants, parmi ceux qui pratiquent, qui prient régulièrement, il y a des fois où on s'endort. Il y a des fois où on s'endort, on se repose sur ses lauriers. On est persuadé d'être les meilleurs, d'être parmi les ashab al-yamin, sans le moindre doute. Et on est persuadé qu'on est au même niveau que les sahaba, on a un haut niveau de foi. Alors qu'on a grandement besoin de réaliser qu'il y a énormément de manquements en nous, et ce, le croyant intelligent, c'est celui qui réfléchit sans arrêt à l'au-delà, qui réfléchit sans cesse que si à cet instant T, l'ange de la mort venait à prendre mon âme, est-ce que je suis prêt à rencontrer Allah? Et quand un croyant, il pense sans arrêt, au moment où attaqu yawman turja'una fihi ila Allah, au moment où on retourne vers Allah, ben ce croyant-là, il va essayer de se corriger. Il ne va pas vivre dans l'insouciance. Ce ne sera pas cette personne qui, quand il sera en salat al-Isha, il va chez lui, il va allumer son parabole ou son canal sat ou je ne sais pas quoi, il va s'asseoir sur son relax, il va regarder la télé, il va regarder n'importe quoi, il va regarder ce qu'un croyant, un mu'min avec haya, avec pudeur, ne doit même pas regarder, et perdre sa soirée, perdre des heures, perdre son temps. Le mu'min intelligent, il sait qu'il a un rendez-vous avec Allah, et donc il a besoin, il se surveille, il se contrôle. Chaque fait, geste, chaque parole, un muraqaba, un self-control, une analyse de sa vie sans arrêt. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Cet homme, ce croyant intelligent, c'est celui qui travaille, qui prépare pour l'autre vie. Et qui donc analyse chaque instant de ce dunya dans le but de mieux préparer son retour auprès d'Allah Azza wa Jal. Hada. نعم فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرؤوا كتابي. Ces versets qui suivent dans à partir de 19 jusqu'à 24 et puis 25, encore 3 ou 4 versets, on va dire que c'est une chance que nous, que cette umma, qu'on ait reçu ce genre de versets, parce que ces versets, c'est une description précise de la façon dont les gens seront présentés devant Allah. Et des deux catégories de personnes, ceux qui reçoivent le livret de compte dans la main droite, leur émotion, leur réaction, leur ostentation en ce jour, jour où l'ostentation sera autorisée. Parce que c'est l'explosion de joie. C'est l'annonce du bonheur éternel. C'est pas comme si que quelqu'un vient dans l'assemblée et dit que... Comment le frère s'appelle ?
Rachid.
Rachid, une bonne nouvelle. Quelqu'un a dit, remettez où ça? Ce sac, il y a 500 000 euros dedans, en billets mauves. Fait plaisir? Fait mal de cœur? Voilà. Imagine quelqu'un, il reçoit ça, il est content, il est pas content. Allez, on va pas aller aussi loin. Quelqu'un, il vous donne un cadeau, on vous annonce une nouvelle, je sais pas moi, vous avez eu un travail, ou alors quelqu'un était malade, alhamdoulilah, il va mieux, ou que madame attendait un bébé, que voilà, ça va bien, et qu'elle a eu son enfant. Une bonne nouvelle de ce dunya. On est content. Mais la joie, elle est limitée, parce que chaque plaisir, chaque bonheur, ça dure un moment. D'accord? Mais cette annonce de bonne nouvelle, qu'Allah est satisfait de toi et que ton parcours a été agréé. C'est-à-dire que quand le mu'min reçoit le livret de compte à la main droite, pour lui, c'est fini. C'est terminé. Khalas. Compte les minutes. Compte les heures. Compte le temps qui passe jusqu'à ce que tu sois dirigé vers le Jannah. Quand le livret de compte a été remis dans la main droite, ce croyant-là, il a eu l'attestation qu'Allah est satisfait de lui. Ça, c'est As-Sa'ada. Ça, c'est le véritable bonheur. Et l'explosion de joie de ce croyant, c'est de montrer aux gens, ah, umuqra'u kitabiya. Et là, on se rend compte, enfin là, on n'aura même plus le temps d'y penser, mais là, à notre niveau, on est capable de réfléchir à ce qui va se passer. Quand on est là-haut, on n'est plus capable de revenir en arrière. Là, on peut préparer ce moment. Là, on se rend compte que on perd notre temps parfois pour régler des problèmes, pour régler des conflits, des problèmes avec la famille, des problèmes avec des gens, avec le voisin. On se chamaille pour des broutilles, pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Le plus important, c'est prépare ce moment, fais en sorte d'être parmi ceux qui reçoivent le livret de compte dans la main droite. Allahumma ja'alna minhum. Et après la joie, il dit pourquoi. Il y a description de son état spirituel. Qu'est-ce qui fait qu'il reçoit son livret de compte dans la main droite? Quel était son état de foi? Et ensuite, il y a description de celui qui reçoit le livret de compte dans la main gauche et ses remords, ses regrets, regrets éternels. Il aurait souhaité ne jamais être là, qu'il aurait aimé que lorsqu'il a quitté ce monde, lorsqu'il était mort, ben que ce soit la mort définitive. Et il dit, ben voilà pourquoi je connais ce moment-là. Je n'ai pas cru en Allah, je n'ai pas aidé les pauvres et ainsi de suite. Et là, il y a description également des péchés qui étaient ce qui correspondait à cette personne de ce dunya. Donc Allah nous donne les pistes. Allah Rabbul Izzah qui a tout prédestiné nous explique, ça va se passer comme ça. Il y aura des gens qui sont heureux de cette façon. Pourquoi? Parce que ils croyaient en ce moment. Il y en a d'autres qui sont malheureux parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils avaient vécu dans ces péchés. Donc quand Allah nous révèle ça, le but c'est quoi? C'est juste de lire, de le lire avec un superbe tajwid, de le lire en qira'a, de l'écouter avec la voix de Shuraim, la voix de Soudès, la voix de Mu'aqili, de Diaka, c'est beau le Coran. C'est pas ça le but. Le but c'est comprendre, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, change ta vie. Voilà l'objectif à atteindre. Le Coran nous réveille, le Coran reparamètre l'objectif de notre vie, nous fait prendre conscience de ce qui nous attend et de ce que nous devons faire pour ce moment. Mais mes chers frères, ces versets qui suivent là, on peut dire que c'est des versets... je ne peux pas dire que c'est les versets les plus importants, mais ça fait partie des versets essentiels. Celui qui comprend ces versets et qui oriente sa vie en fonction de ça, wallahi, cette personne a tout compris. Et cette personne, inshallah, ira loin. Parce qu'il a les deux exemples, l'exemple et le contre-exemple. Et à chaque fois qu'il est face à un péché, ou à chaque fois que son nafs, essayer d'avoir le dessus quand il doit faire une bonne action et essayer de le ralentir pour se réveiller très tôt. La salat de Fajr est très tôt en ce moment. Et que lorsqu'il se réveille 5h15, il ouvre à côté les yeux, il regarde, il dit 5h15, il dit mais referme pas. Il sait que quand il referme, et quand il rouvre, c'est soleil, il est déjà fini de lever. D'accord? Et que là, tu as envie de te laisser aller. Demain c'est samedi, je travaille toute la semaine, ou alors c'est dimanche, d'accord? Et que là tu te dis que, attention, il y aura des gens qui recevront le livret de compte dans la main gauche, et ça, je ne veux pas être cette personne. Donc, ces versets-là doivent te permettre de tracer ton chemin, d'avancer et de chercher l'excellence. L'excellence dans la foi, l'excellence dans la soumission à Allah Azza wa Jal. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. يُخْبِرُ تَعَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ nous explique عَنْ سَعَادَةِ مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَمِينِ ابن كثير رحمه الله nous explique dans ces versets, Allah décrit la joie, le contentement de celui à qui on remet son livret de compte de la main droite. C'est quoi un livret de compte? Qui m'explique c'est quoi ça? Hudhaifa. C'est le livret qui t'accompagne depuis que le mu'min ou la mu'mina est balir ou balira. Depuis qu'on atteint l'âge de puberté, c'est un livret qui est ouvert et qui ne se ferme jamais. Et avec des anges qui ont été envoyés, qui ont été créés pour ça. Kiraman, katibina, ya'lamuna ma taf'alun. Autre verset qui décrivent ces anges, il y a plein, mais les autres versets ne me reviennent pas. Oui, ma yalfidhu min qawlin. Ma yalfidhu min qawlin. Il n'y a pas une parole, là, subhanallah, j'ai dit il, ni ya. Pas une parole, Allahu Akbar, qu'Allah Azza wa Jal inscrive ces sept mots dans mon mizan et hasanat. Parce qu'il n'y a pas une parole qui sort de la bouche d'un homme. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi. Lada, ça veut dire près de, sans qu'il n'y ait illa ladayhi raqibun atid. Sans qu'il n'y ait donc ces anges qui sont là et qui sont attentifs pour inscrire chaque parole. Donc quand tu dis une bonne parole, shkurullah, remercie Allah qui t'a donné la possibilité de dire quelque chose de bien. Qu'Allah t'a donné la possibilité d'utiliser tes oreilles pour écouter des bonnes paroles. Qui t'a donné tawfiq d'utiliser ton corps pour rester dans sa maison. Pour écouter kalamullah. Pour écouter la parole d'Allah. D'être dans une assemblée bénie par les malaïka. Ça, ce sont des cadeaux divins. Ce sont ça les bienfaits qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde. Passer du temps de le ta'a. Parce que ce ta'a, cette obéissance, nous le verrons dans ce livre. Et ce livret, Et ces anges, ils ne s'arrêtent jamais, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien du tout. Ils sont missionnés pour cela jusqu'à ce que l'être humain meure. Et ce qui me rappelle le verset dans la sourate Banu Israël, la sourate l'Isra, « Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaba yalqahu manshura » Jour de Qiyama, le livre sera présenté à chaque personne ouvert. « Iqra kitabak » Lis toi-même, yani, lis ton livre. « Kafa binafsika alayka al-yawma hasiba » En ce jour, l'être humain lui-même, il va voir son livret de compte. 4 septembre 1982, depuis 4h30 du matin, réveillé, accompli, qiyamul layl, subhanallah. Il remercie Allah. Parti à la salat de Fajr en état d'ablution. Il a fait des pas vers la masjid. Allahu Akbar. Yashkurullah. Il remercie Allah. Il accomplit les sunnans avant la salat. Il se joint au imam. La salat est terminée. Il fait le dhikrullah. Il reste de le dua. Il lit le Coran jusqu'au lever du soleil. Il fait le shuruq. Il lit, il fait le ishraq. Il se rend à son travail. Il retourne auprès de sa famille. Il achète le pain. Ça fait partie des bonnes œuvres. Il achète à manger, il ramène pour sa femme et ses enfants, il leur donne la subsistance halal qu'Allah a prédestinée. Il garde le regard baissé dans la rue. Il y a des fitnas, il baisse son regard. Il y a des fitnas, il ne plonge pas, il ne succombe pas. Il va à son travail, il fait des efforts pour obtenir son rizq, pour obtenir sa subsistance de façon licite, dans toutes les circonstances. Il se contrôle, il arrive à la salat al-dhahr, il va à la masjid, ainsi de suite. Subhanallah, ni'ma. نعم هذا الرجل اللهم اجعلنا هذا الرجل كالله nous donne l'honneur d'être comme ces gens ou ahsan et mieux. Mais celui qui dans quand lorsqu'on lui dit اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا, tu es ton propre juge, c'est toi-même qui vois, parce que ce n'est que ce que tu as fait qui est écrit, il n'y a rien qui est écrit en plus, rien du tout. Alors que l'autre personne qui ouvre son livret de compte et il voit pareil. Mardi 9 septembre 1982, il se réveille à 7h30 sans accomplir la salat. Il s'est couché tard le soir et il n'avait même pas l'intention de se réveiller. La salat, wala dua, wala dhikrullah, wala tilawat al-Qur'an, wala sujud, wala qiyam lillah. La personne se réveille, il fume sa cigarette, il prend son petit déjeuner et il part au travail. Directement, dans le travail, il va faire la bise à tout le monde, il va parler de façon incontrôlée. Il n'y a pas de différence dans son discours entre Ahlul Iman et Ahlul Kufr ou Ahlul Nifaq, et ainsi de suite. La nourriture qu'il mange, il ne regarde pas halal, pas halal. Il a besoin de quelque chose, il va voir son banquier, il va faire un emprunt avec intérêt, avec riba, pour investir, pour avoir telle chose, pour paraître, et ainsi de suite. C'est la pire des choses que cette personne qui le joue des comptes découvre de ce livret de comptes. Il revoit toute sa vie, il revoit ses péchés, il revoit ses manquements et il sait qu'il est là à un point de non-retour. S'il arrivait à là avec tout ça, c'est qu'il n'a jamais pu demander pardon à Allah pour ça. Parce que les portes du Tawba sont grandes ouvertes jusqu'à ce que la personne meure. Jusqu'à ce que la personne meure, les portes du Tawba sont grandes ouvertes. Et combien de fois Allah nous donne la possibilité de voir l'intégralité de nos péchés pardonnés. Mais celui qui, le jour de Qiyam, se retrouve avec un livret de compte avec des péchés, c'est que chaque fois qu'Allah te donnait la possibilité de revenir vers lui, tu ne le faisais pas. Celui qui se présente devant le tribunal d'Allah avec ses péchés, ça c'est la pire des choses, qu'Allah nous protège. Ça c'est le livret de compte. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il dit que même lorsqu'une personne est malade et que la personne soupire, at-tawajjou, comme on dit en arabe, la personne se plaint, la personne soupire, il crie. Ah, d'accord? Il dit que ça aussi les anges écrivent. Parce qu'ils ont reçu l'ordre d'écrire tout ce qui est prononcé. Et le jour de Qiyama, on fait le tri entre les bonnes paroles, les mauvaises paroles et ceux qui étaient neutres, les paroles qui étaient neutres et qui ne comptent pas. Qui ne sont pas mis ni de le côté de la balance, ni à droite, ni à gauche. Pour qu'on réalise comment est-ce que le hisab est daqiq, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et là, ça nous fait comprendre le verset فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. L'atome, le iota de bonne action est visible. Le iota de péché également est visible parce que ceux-là sont pesants dans la balance. فَمَنْ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيقول ها أمقرأ كتابي حديث de Abu Uthman يقول المؤمن c'est pas un hadith c'est un tafsir dans lequel il dit المؤمن يعطى كتابه في ستر من الله. Alors il décrit, ce mufassir décrit que une personne sera présentée, il aura cette rencontre avec Allah. Dans un hadith, il est stipulé que chaque être humain devra avoir un entretien avec Allah. Un entretien avec Allah. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Il n'y a personne entre lui et Allah. Et il dit que ce mu'min, fayaqra'u sayyi'atihi. Ce mu'min à qui on lui présente son livre, il lit ce qu'on vient de lire là. Des exemples qu'on a cités. Il lit des péchés. Fakullama qara'a sayyi'atan. Et à chaque fois qu'il lit un péché, taghayyara lawnu. Sa couleur change. C'est-à-dire que la personne est prise d'angoisse. Et, hatta yamurra bihasanatihi. Et lorsque il lit maintenant des bonnes actions, c'est, il lit toute sa vie. Et lorsqu'il voit que là, il y a un passage de bonnes actions, et là, il retrouve de l'espoir. Thumma yanzuru. Faïda. Et là, ça, c'est un hadith qui montre, là, on sort légèrement du contexte. Permettez-moi, on sort du contexte de la remise des livrets. C'est un hadith qui montre que comment Allah peut avoir de la clémence pour un mu'min au jour de Qiyama. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah d'avoir pitié pour nous dans ce dunya et de l'akhira. Il dit que cette personne qui a vu ses péchés, qui est angoissée et qui a vu ses bonnes actions et qui est un peu rassurée, à un moment donné, il voit que tout ce qui était inscrit comme péché ont été transformés en bonnes œuvres. C'est la clémence d'Allah, le jour de Qiyama, pour les personnes qu'il aime. C'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, des Ahlul Tawhid, qui iront dans le Jahannam, oui ou non? Oui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué comment le jour de Qiyama, il ira récupérer des personnes dans le Jahannam. Il n'entrera pas dans le Jahannam, lui, il ne voudra pas, tant qu'il restera quelqu'un qui a la ilaha illallah dans son cœur qui est dans le Jahannam. Il ira les récupérer jusqu'au dernier. Et voilà, ça me décrit que certaines personnes ressortiront wa qadim tuhishu. Ils seront complètement, complètement brûlés, brûlés, carbonisés. C'est, ils ont été brûlés une fois. Et quand la personne est complètement brûlée, la peau reprend sa forme, il redevient normal, afin que le châtiment soit perpétuel. Mais ensuite, il y a la shafa'a de l'Habib sallallahu alayhi wa sallam qui les retire de l'enfer, des gens qui priaient avec nous, mais qui avaient des péchés pour lesquels ils n'avaient pas demandé pardon à Allah azza wa jal. Donc ces hadiths prouvent que parmi les ahlul iman, certains iront dans le jahannam pour un temps défini par Allah à cause des péchés qu'Allah nous protège. Tandis que d'autres se présentent avec certains péchés, mais Allah décide de pardonner ses péchés, et que les péchés sont transformés en bonnes actions. Et là, il y a le verset, cette personne pourra dire fièrement, ha umqra'u kitabiya. Un autre exemple de récit qui montre la clémence d'Allah, et on va s'arrêter à là, on va s'arrêter sur ce genre de récit qui nous donne de l'espoir. Dans, il est rapporté par Abdullah ibn Hanbala. Il dit que inna Allah yaqifu, ça c'est mawquf. C'est l'avis de son sahaba. C'est l'avis, le tafsir, l'avis, c'est-à-dire avis, c'est l'opinion de ce sahaba. Il explique, c'est son tafsir qu'il a appris. Inna Allah yaqifu abdahu yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jal appellera et mettra debout son serviteur devant lui. Et il commencera par bi sayyi'atihi fi dhahri sahifati, par ses péchés dans ce livret de compte. Et Allah lui demandera, anta amilta hadha. Est-ce bien toi qui accomplis ça? Est-ce bien toi qui accomplis ces péchés? Fayaqulu na'am ya rabb. Et avec honte et pudeur et cette sensation d'écrasement, ce serviteur dira, oui, c'est bien moi, oh Allah. فيقول له الله رب العزة lui annoncera la bonne nouvelle que وإني قد غفرت لك que je t'ai accordé mon pardon. Et là la personne va recevoir son livret de compte dans la main droite et il va lire ce fameux verset ha umqra'u kitabiya إني ظننت أني ملاق حسابيا. Il y a quelques récits comme ça, un troisième, on finira avec ça. Ça c'est hadith, cette fois-ci, le prophète m'a dit, « Yudni Allahu l'abda yawm al-qiyam » Allah rapprochera un de ses serviteurs le jour de qiyam. « Fayuqarriruhu bidhunubihi » Allah lui fera reconnaître tous ses péchés. « Hatta idha ra'a annahu qad halak » Jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette personne a l'impression qu'elle est condamnée. قال الله الله lui dira إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم j'avais caché ces péchés de ce dunya et en ce jour je t'accorde mon pardon ثم يعطى كتاب حسنات بيميني et cette personne recevra son livret de compte dans la main droite qu'Allah رب العزة ait pitié de nous en ce jour chers frères en islam. Le mu'min est entre la crainte et l'espoir. Ce qui nous donne de l'espoir, c'est qu'Allah a 100 rahmah. Une rahmah, c'est pour ce dunya, depuis le début de la création. Une clémence, c'est pour le début de la création jusqu'au qiyama. Et 99 clémences, miséricorde, Allah garde pour ahlu la ilaha illallah, le jour de qiyama, quand ce jour, Allah ait pitié de nous. Et qu'Allah nous fasse remettre notre livret de compte dans la main droite. Qu'Allah nous tawfiq dès cet instant de paramétrer notre vie, d'orienter notre vie, de fixer les bons objectifs pour qu'inch'Allah, le jour de qiyama, nous ferons partie de ces gens qui vont recevoir le livret de compte dans la main droite. Wa ma tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum.